autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Comment les galaxies se sont-elles formées? Qu'est-ce que le fond diffus cosmologique? Qu'est-ce que la matière noire et où se cache-t-elle? Qu'est-ce que l'énergie sombre? Quelle est l'histoire de la cosmologie et à quels défis sont confrontés les chercheurs qui étudient l'univers? Quelles avancées a permis le satellite Planck? Comment interpréter ces données? Quels sont les objectifs de la prochaine mission Euclide? Sommes-nous à l'aube d'une révolution cosmologique? Comment faire dialoguer science et société? Autour de la question « Comment raconter de l'intérieur les avancées de l'astrophysique contemporaine ?» La réalisation est signée Anthony Bellard.
Il n'y aurait pas de science dans l'histoire humaine s'il n'y avait pas ce moteur étonnant qui est en nous, la curiosité. La curiosité, c'est une propriété du cerveau, bien sûr, que nous a légué l'évolution et que l'homme a développé à l'extrême. Informés par nos sens, pas seulement la vision, mais tous nos sens, nous percevons le monde extérieur et il nous pose des questions. Ou plutôt, nous nous posons des questions à son sujet. Pourquoi le ciel est-il bleu le jour, noir la nuit, rouge au coucher du soleil, blanc ou laiteux quand la brume ou les nuages emplissent l'atmosphère? Pourquoi? On voit bien que ces questions naissent de cette interrogation informée par nos sens.
La voix de l'astrophysicien Pierre Léna, créateur de la fondation La Main à la Pâte pour la diffusion des sciences auprès du plus grand nombre. Bonjour Hervé Doll.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, spécialiste des amas de galaxies, vice-président de l'Université Paris-Sud en charge de la médiation scientifique et vous publiez aux éditions d'UNO Le côté obscur de l'univers, un ouvrage précisément préfacé par Pierre Léna. Alors ce livre, c'est le récit de l'intérieur des dernières avancées en astrophysique. Et particulièrement en cosmologie. Vous avez participé à des missions de la NASA et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Mais c'est aussi un plaidoyer pour le dialogue entre science et société et vraiment la diffusion de la science auprès du plus grand nombre. Un mot de réaction à ce que vient de dire Pierre Léna sur cette question de la curiosité.
Ah ben la curiosité, c'est ce qui nous gouverne, c'est ce qui nous guide. Alors, je suis très ému d'entendre Pierre parce qu'il a eu l'amabilité de me signer la préface et puis c'est un peu un mentor en la matière. Quand je vais dans les classes, les petites classes, même en maternelle, en élémentaire ou dans les lycées ou même à l'université, on sent que l'humain, comme le dit Pierre Léna, je ne vais pas paraphraser parce qu'en plus il parle très bien, c'est vraiment ce qui nous guide, nous gouverne, c'est ce qui permet que tout devient possible. Et malheureusement, ensuite, nous adultes, on perd un peu cet esprit curieux qui a à voir aussi avec l'aspect enfantin, enfin l'aspect vraiment très débridé, très inhibé. Désinhibé en l'occurrence. Et ce qu'on essaie de faire en science, donc la démarche scientifique, permet aussi de s'auto-désinhiber, de susciter cette curiosité. Et nous, ce qu'on essaie, quand on a des gens autour de nous et dans la société, c'est de refaire vivre l'enfant qui est en nous, enfin l'enfant curieux en particulier, parce que ça permet d'être ouvert vers le monde. Et le monde est fascinant. Alors le monde des humains, bien sûr, mais le monde en général, le monde physique, le monde qui nous entoure. Et finalement, on comprend pas grand-chose de ce monde qui nous entoure. Et donc, cet inconnu peut faire peur, peut nous refermer sur nous-mêmes. Mais l'idée de la démarche scientifique et puis de la démarche enfantine, hein, moi je mets les deux en parallèle, c'est au contraire de s'ouvrir vers le monde, de questionner l'univers et questionner nous-mêmes. Et finalement, c'est une démarche qui est bénéfique, qui est salvatrice pour rester voilà, ouvert au monde qui nous entoure, que ce soit aux gens ou aux phénomènes physiques, aux phénomènes naturels, à que sais-je.
Mais en même temps, c'est très séduisant cette notion de curiosité, de dire voilà, on garde son esprit d'enfant, mais en même temps la science aujourd'hui elle est extrêmement technique, elle est de plus en plus compliquée, enfin si on parle de la physique, alors comment on fait pour faire passer ça auprès du grand public?
Alors effectivement c'est une navigation compliquée, on a même du management, on a même des problèmes de crédit, des problèmes humains, etc. Donc effectivement, la science contemporaine moderne est très structurée, elle est même planifiée d'une certaine manière, ce qui pose beaucoup de problèmes à certains d'entre nous. Mais donc en fait, on navigue entre deux eaux, un peu comme nos personnalités humaines. On n'est pas exemple ni de contradictions, ni de différents aspects psychologiques. Bah, les scientifiques sont un petit peu aussi schizophrènes. D'un côté, on est très technique, très planificateur, et il le faut parce qu'il y a des manips qui coûtent très très cher et qui sont rendus possibles grâce aux contribuables. et à l'effort français et européen et même mondial. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec. Mais de l'autre côté, il faut garder cet esprit de curiosité, d'ouverture, pour nous dire, voilà, tous ces moyens spatiaux, moi je suis un peu plutôt spécialiste des missions spatiales, tous ces moyens, ces technologies ultra complexes vont nous permettre de découvrir des choses dans l'univers, mais aussi vont nous permettre, à nous, pauvres humains, entre guillemets, au quotidien, de nous apporter beaucoup de choses. Et ce, de différentes manières, à la fois la connaissance, parce que savoir dans quel monde où on vit, ça paraît idiot, mais en fait, c'est très très important. Par exemple, on ne vit pas sur une Terre plate, mais au quotidien, ça nous change absolument pas la vie, qu'on soit sur une Terre plate ou une Terre plus ou moins ronde, hein, plus ou moins sphérique. Mais en fait, ça change tout, parce que savoir que nos amis australiens ou en Nouvelle-Calédonie, n'ont pas la tête en bas, etc. C'est quand même très important pour comprendre la place de l'homme dans le monde. Et on peut étendre ça jusqu'à l'origine de l'univers.
Alors, vous revenez dans ce livre, Le côté obscur de l'univers, sur votre parcours de chercheur. Il y a certains jalons très importants. L'un d'entre eux, c'est le lancement des satellites Planck et Herschel par la fusée Ariane. C'était en 2009.
10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, top.
Donc vous avez d'abord l'allumage du moteur central, vérification de son bon fonctionnement et maintenant l'allumage des deux propulseurs à plongeon. Au décollage, le lanceur pèse environ 770 tonnes et développe une poussée de 1300 tonnes. Tout se passe bien pour l'instant.
Malheureusement, il y a une petite couverture nuageuse, la voilà qui réapparaît.
Tout se passe bien. Le vol se poursuit normalement. Les conditions à bord sont nominales.
Claude, je dois avouer, c'est mon premier vol de jour.
Ce qui est remarquable, c'est que c'était un vol de jour. D'habitude, nous réalisons des vols de nuit. Donc, on a eu la chance de voir Ariane s'élever dans le ciel de la Guyane. Et à l'heure actuelle, tous les paramètres sont nominaux.
Un des grands souvenirs de votre vie de chercheur?
Ah oui, voilà, j'en suis encore tout ému. Tous les paramètres sont nominaux, c'est vraiment la phrase qu'on adore entendre, c'est-à-dire que tout va bien et qu'on passe à peu près un quart d'heure de stress absolu, parce qu'il y a une quinzaine d'années de travail derrière pour nous les scientifiques et les ingénieurs, les techniciens, les administratifs. Et donc on joue, non pas notre vie, mais une grosse partie de notre vie professionnelle sur ces lancements. Alors Ariane Espace fonctionne très bien, donc nos deux satellites Herschel et Planck ont été mis sur orbite parfaite. Mais c'est un très grand moment qui est difficile à négocier, parce que donc nous sommes des scientifiques, nous sommes des gens plutôt rationnels, on sait ce qui nous attend, on connaît toute la séquence, mais on est maître de rien, parce qu'on... Alors moi j'étais derrière un écran, j'étais pas accouru ce jour-là. Et puis on est à la fois ébloui par le spectacle, parce que c'est beau un lancement de fusée, mais... et puis était stressé comme pas possible. Et donc ce sont des très très grands moments, et c'est presque pour ces moments-là qu'on vit notre carrière de chercheur, parce qu'on sait que derrière... on va découvrir des choses extraordinaires et on va vivre une nouvelle époque. Et de fait, scientifiquement, il y a eu un avant Planck et un après Planck pour la connaissance de notre univers. Et c'est particulièrement émouvant et fascinant de vivre ce genre d'événements et d'aventures humaines.
Alors on reviendra tout à l'heure plus précisément sur les avancées de Planck, mais un mot peut-être de votre discipline, la cosmologie. Mmh. On voit bien dans votre livre que vous faites des allers-retours constants entre la théorie et les observations. Comment avez-vous choisi cette branche? Qu'est-ce que c'est que la cosmologie?
Alors la cosmologie, c'est l'étude de l'univers globalement de manière scientifique, parce que donc la science n'a pas le monopole de la conception de l'univers. Vous avez des conceptions théologiques, philosophiques, même métaphysiques, sauf qu'elles n'adressent pas la réalité de la même manière. Donc nous posons la question, comment ça s'est passé de manière réfutable, évolutive, donc c'est la démarche scientifique. Et on s'intéresse à tout l'univers, sans s'intéresser par exemple aux planètes, etc. On considère ça de manière très globale, un peu comme si les galaxies et les amas de galaxies étaient des petites particules de gaz, et on essaie de comprendre le Big Bang, l'évolution de l'univers, son expansion, parce qu'on comprend aujourd'hui l'univers tel qu'il est en expansion. Et comment j'en suis venu là? C'est par hasard, c'est des rencontres, hein. C'est comme, je sais pas, les acteurs, les comédiens, les artistes qui font des rencontres dans leur vie. Moi j'ai rencontré un chercheur brillant qui m'a vraiment impressionné quand j'étais étudiant, et puis j'ai décidé de travailler avec lui.
Jean-Luc
Puget, pour ne pas le nommer, et puis qui était l'investigateur principal d'un instrument de Planck, et puis dans son sillage, j'ai fait de la science avec lui, avec ses équipes, et puis maintenant un peu plus de mes propres ailes, maintenant qu'il est émérite. Et puis voilà, ce sont des rencontres et puis des sujets. Quand on vous dit, bah dans 10 ans, tu participeras à un travail qui mesurera l'âge de l'univers comme jamais et qui permettra de comprendre comment l'univers un peu s'est formé, c'est quand même assez attrayant.
Alors votre discipline, la cosmologie, a une histoire et il est important de la connaître pour bien saisir les enjeux des recherches actuelles, hein, des observations de Planck dont on a rapidement parlé ou encore d'Euclide, le nouveau programme européen qui sera lancé en 2020. Donc on va parler de cette histoire juste après Annie El-Khatib, Black Constellation sur RFI. Khatib, Black Constellation sur RFI. Alors, la cosmologie, l'étude physique de l'univers a une histoire qui a beaucoup évolué en un siècle depuis Einstein, la relativité générale. Alors, cette histoire, vous le dites Hervé Dolle dans votre livre, elle repose sur 3 solides piliers. L'expansion de l'univers, la nucléosynthèse primordiale et le rayonnement fossile. Alors, on va revenir au fondement du modèle expansionniste. Écoutez la voix de Georges Lemaître, l'abbé Lemaître, qui a le premier trouvé des solutions théorique précisant le mouvement d'un univers en expansion dans le cadre de la relativité générale.
Nous savons qu'une des solutions de l'équation de Friedmann nous fait distinguer 3 phases dans l'évolution de l'univers. La période actuelle d'expansion accélérée a été précédée d'une période de ralentissement et d'instabilité où la matière préstellaire s'est groupée en galaxies. Cette période de ralentissement a été précédée elle-même d'une période d'expansion rapide, dont le début, qui date de 10 à 20 milliards d'années, est marqué par une valeur théoriquement nulle du rayon de l'espace. Il est clair que nous devons identifier cette valeur initiale du rayon de l'espace avec le début de la désintégration de l'atome primitif.
C'est une archive de 1950. Alors, avec Georges Lemaître, on remonte aux années 30, hein, 1931, je crois. Mais avant, il faut se référer aux avancées faites par les observations de Hubble.
Exactement. Dans les années 1920, Edwin Hubble, aux États-Unis, a observé plein de galaxies. Et c'est lui qui a démontré que les galaxies, qui sont donc des ensembles d'étoiles et de matière. Alors maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de matière noire. On y reviendra peut-être. sont des objets qui sont en dehors de notre Voie lactée et puis qui s'éloignent tous de nous. Ça, couplé à d'autres observations, a permis à Lemaître et puis à d'autres de concevoir un univers qui n'est pas stable, comme on l'a cru pendant des siècles, et puis comme on aurait envie de le croire si, de manière naturelle. Hein, on aime bien la stabilité.
Voilà, c'est pas intuitif, cette idée
d'expansion.
C'est pas
du tout intuitif. Bah, ça l'est toujours pas. Il se trouve que maintenant, c'est la description qu'on en a qui fonctionne très bien, mais effectivement, c'est pas du tout intuitif. Et puis, on a envie de dire, ça s'expande en quoi? Est-ce qu'il y a un bord, etc.? Mais en fait, c'est vraiment tout l'univers qui, l'espace-temps à quatre dimensions qui s'étire, qui s'étend. Et les observations de Hubble, eh ben, il fallait bien les interpréter, parce que quand vous voyez tout autour de vous les galaxies qui s'éloignent, très très loin, puis avec des vitesses d'autant plus grandes que ces galaxies sont lointaines, eh ben, il faut que vous arriviez à une théorie, ou au moins un modèle qui dise, qui puisse expliquer, que vous soyez d'accord ou pas, mais au moins qu'il y ait une théorie physique. Et donc, ce sont tous ces chercheurs dans les années 20, 30, 40, qui ont abouti à cette conception d'un univers qui peut être, en expansion, éventuellement en contraction durant d'autres phases. Il se trouve que c'est pas le cas dans notre univers, on le sait maintenant, mais c'est théoriquement possible. Et puis, bah, voilà, il faut accorder ces observations avec la théorie. Parce que c'est difficile, on est dans notre propre univers, et on peut même se poser la question, est-ce que l'astrophysique et la cosmologie sont des sciences? Parce que finalement, on est dedans et on n'a qu'un seul objet à étudier, enfin l'univers. Et donc, la manière d'étudier ça, c'est de faire des prédictions théoriques et de les confronter aux observations et d'essayer d'avoir un accord.
Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas expérimenter.
Exactement, on ne peut pas expérimenter. Alors, on peut faire des simulations, mais les simulations ne nous donneront jamais que ce qu'on a mis à l'intérieur comme ingrédient. Et donc, même aujourd'hui, on est parfois limité par le fait d'avoir un seul univers, parce qu'on pense que voilà, notre univers est issu, enfin, c'est une réalisation parmi d'autres, et il faut voir si elle s'accorde avec nos prédictions théoriques. Donc, c'est très difficile. En revanche, on a quand même un atout majeur qui est la réflexion humaine qui se caractérise de la manière suivante par la démarche scientifique. C'est-à-dire que on emprunte des pistes théoriques, des idées, et toutes ces idées sont testables. Donc on observe des choses et on voit si c'est en accord avec nos prédictions. Même si on n'a qu'un seul univers et qu'on est dedans, on peut néanmoins avancer de manière scientifique. On peut faire l'analogie avec les autres sciences naturelles. Par exemple, je sais pas, l'évolution darwinienne, etc. On peut pas, nous, dans un laboratoire, recréer toute la séquence d'évolution. En revanche, avec des observations, donc des fossiles, etc., des espèces différentes sur des endroits reculés, et puis une idée théorique assez précise, on peut reconstruire l'histoire sans forcément expérimenter nous-mêmes. Et c'est une démarche qui a prouvé être assez innovante et couronnée de succès.
On reviendra tout à l'heure sur les avancées énormes des années 2000 et 2010, hein, jusqu'à une projection vers 2020, mais si on revient un petit peu dans l'histoire, il faut quand même citer le nom de Gamow. Là, on est encore dans les années 40. Il faut parler de la découverte du rayonnement fossile par Penzias et Wilson dans les années 60.
Exactement. Alors à la suite d'Edwin Hubble dans les années 20, 30, 1900, les gens ont découvert que l'univers était en expansion, donc c'était en tout cas l'explication la plus naturelle. Et puis des gens comme Gamow ont remis le film à l'envers, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'univers est en expansion et qu'on regarde dans le passé, bah, il était un petit peu plus contracté en quelque sorte, hein. J'utilise des guillemets partout, parce qu'il y a des équations un peu compliqué à mettre derrière. Et puis, ben, il était tellement contracté que à un moment, il devait être très très chaud et très très dense. Hein. C'était aussi l'idée de Lemaître. Alors, l'image mauvaise qu'on en a, c'est qu'il n'y a qu'un seul point dans l'univers qui s'étend comme une explosion. En fait, c'est partout dans l'univers. Bon, il y a des petites subtilités comme ça, mais... Et puis, ben, Gamow s'est dit, ben, si l'univers était très très chaud et très très dense, un peu comme une étoile aujourd'hui, au centre d'une étoile d'aujourd'hui, c'est le premier à avoir prédit qu'il devrait y avoir un rayonnement qui baigne tout cet univers, parce que quand on est très chaud ou très dense, la physique nous dit qu'il y a un équilibre, et que quand il y a équilibre entre matière et rayonnement, il y a un rayonnement spécial qui doit baigner cet univers. Alors il l'avait prévu, et puis bingo, dans les années 60, en 64 exactement, Penzias et Wilson, qui ne cherchaient pas ça, l'ont découvert fortuitement. Ils sont allés voir des théoriciens pour qu'ils donnent une explication, et ils ont découvert ce rayonnement qui baigne tout l'univers, qui est ce rayonnement fossile, qui est l'une des preuves irréfutables du modèle du Big Bang.
Alors après cette plongée dans l'histoire, on va revenir au présent avec l'émission Planck et Euclide. On parlera même du futur. On va s'intéresser à la matière noire ou encore aux ondes gravitationnelles. Hervé Dolle, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après les informations sur RFI. À tout de suite.
De la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, comment raconter de l'intérieur les avancées de l'astrophysique contemporaine avec Hervé Doll, professeur à l'Institut d'astrophysique spatiale, spécialiste de l'origine des amas de galaxies et auteur de l'ouvrage Le côté obscur de l'univers, paru aux éditions d'UNO. Alors on a retracé à grands traits l'histoire de la cosmologie, l'étude de l'univers à grande échelle. On a aussi un petit peu parlé de votre parcours, Hervé Doll. On fait des allers-retours entre la théorie et l'observation. Alors vous les avez travaillé, on l'a dit tout à l'heure, sur la mission Planck, le satellite lancé en 2009 qui a recueilli de nombreuses données. Écoutez ce reportage du CNES réalisé en 2013 au moment de la présentation des données et c'est François Boucher qui s'exprime.
Observer les tout premiers instants du Big Bang, les chercheurs en rêvent depuis 20 ans. Aujourd'hui, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, présente les premières données cosmologiques de la mission Planck, des résultats uniques au monde qui racontent l'histoire de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années.
Le premier résultat de base, essentiel, c'est une cartographie exhaustive du ciel, très précise, dans ce qu'on pourrait appeler 9 couleurs différentes. Planck a fait 9 images comme ça, avec des filtres différents, donc dans des couleurs différentes, sauf que c'est des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait, c'est plutôt dans le domaine de longueur d'onde de la radio. Alors, en quoi elles sont différentes, ces images? C'est simplement qu'elles font tout le ciel à un niveau de précision qui est tel qu'on voit des détails qu'on n'avait jamais vus. On avait vu quelques images moins précises dans certains filtres, dans certaines couleurs, mais celles de l'instrument HFI sont essentiellement des nouvelles. Et donc, l'instrument HFI, c'est l'instrument que nous pilotons, nous, Français, et qui apporte 6 de ces 9 images.
Depuis le lancement du satellite Planck de 3e génération en 2009, les chercheurs ont fait 5 relevés du ciel, une prouesse technique qui a permis aux scientifiques de réaliser 2 fois plus d'observations que ce qui était prévu. Aujourd'hui, la carte du fond du ciel établie par Planck est la meilleure jamais réalisée.
Hervé Doll, la différence entre Planck et ses prédécesseurs, c'est que vraiment Planck permet de voir tout le ciel et pas seulement des petits bouts comme Hubble par exemple.
Alors Hubble effectivement n'observe que des tout petits bouts, mais Planck avait des prédécesseurs qui observaient eux aussi tout le ciel. C'était des missions extraordinaires, mais qui avaient des petits défauts, c'est normal, la technologie évolue. Elles étaient beaucoup moins sensibles et puis ces anciennes missions spatiales avaient été un petit peu myopes au sens où elles ne voyaient pas assez précisément le ciel. Planck, la vraiment révolution Planck, c'est que la sensibilité a été augmentée quasiment de 1000 et grâce à un réfrigérateur extraordinaire conçu en France qui refroidit la caméra à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. On parle de 100 millikelvin, une prouesse unique au monde. Encore à ce jour. Et donc, grâce à ces détecteurs ultra, ultra froids, nous avons mesuré, donc avec une précision inégalée, tout le ciel et aussi avec une précision angulaire, on dirait avec une acuité visuelle, entre guillemets, beaucoup plus précise que ce qu'il y avait avant. Et cette acuité visuelle très fine, enfin très bonne, pour voir des détails très fins dans le ciel, dans cette première lueur de l'univers, hein, qui est le fond cosmologique ou le rayonnement fossile, nous permet de mieux comprendre à la fois les tout premiers instants de l'univers, jusqu'à vraiment une fraction de seconde après le Big Bang, tout ça entre guillemets, mais aussi comprendre comment les premières structures, c'est-à-dire les premières galaxies, premiers amas de galaxies, se sont formées, parce que même si on a des idées générales qui sont, on pense, bonnes, il y a plein de détails que l'on ignore toujours, et qui pose des problèmes, notamment comment la matière qui nous entoure, hein, et la matière noire qui est un peu spéciale, comment tout ça se condense pour former des galaxies. On a des idées, mais Planck, grâce à son acuité, a permis d'apporter des éléments très importants là-dessus.
Alors, cette histoire de l'univers que permet de mieux comprendre Planck, les observations de Planck, c'est une histoire en 5 actes, comme une pièce de théâtre?
Il y a plusieurs actes. Une mission spatiale, ça nécessite des centaines de personnes. Plus passionnés les uns que les autres, des scientifiques, chercheurs bien sûr, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, parce que c'est pas moi qui ai conçu les superbes caméras refroidies, qui ai testé dans le vide spatial ces instruments. Donc il y a plusieurs actes. En gros, il y a des gens qui conçoivent les instruments pour être cohérents avec les buts scientifiques, et donc il y a des allers-retours, il y a des contraintes aussi financières, techniques, technologiques, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et puis après, quand vous avez un concept d'instrument, vous le fabriquez. Vous le testez, ça se passe souvent bien, mais pas toujours. Et donc, il faut éventuellement revoir la copie. Il faut aller dans des grosses cuves immenses où on fait le vide et le froid comme dans l'espace. En fait, on a des simulateurs spatiaux hein, dans nos universités, à Orsay notamment, mais pas que. Dans toutes, le CNES, l'agence spatiale, finance des grandes cuves comme ça, des grandes installations. Une fois que votre instrument est testé, eh ben, vous l'amenez à Cannes pour qu'il soit, on appelle ça, intégré dans le satellite. Parce que nous, les scientifiques, on fabrique que l'instrument, que la caméra. Hein. Pour donner l'analogie avec l'appareil photo numérique, nous on construit le petit détecteur et puis l'électronique autour, mais le boîtier, l'objectif, tout ça c'est les industriels parce qu'ils ont l'habitude, ce sont des professionnels également. On met tout ça un peu comme des poupées russes dans un gros satellite, on reteste le satellite parce qu'il faut pas que ça vibre, hein. Il y a des vibrations monstrueuses au décollage et pendant les phases de vol. Et puis après, bah, c'était l'archive que vous avez mise tout à l'heure, le décollage, le grand stress. Et puis en parallèle, c'est ce qu'on fait en ce moment sur Euclide, on prépare tous les programmes d'analyse, qui sont des programmes informatiques super compliqués, pour analyser les données, parce que on n'attend pas le lancement pour commencer à se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on va faire des données? Évidemment, tout ça est en parallèle et nécessite à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fameux fond diffus cosmologique. Je voudrais vous faire écouter la voix de votre collègue Nabila Aghanim, directrice de recherche au CNRS et à l'Institut d'astrophysique spatiale. Elle était récemment au micro de Nicolas Martin sur France Culture.
En astrophysique et en cosmologie, l'observable principal qu'on utilise pour regarder l'univers et le sonder, ce sont des photons, la lumière. Et ces photons, des petites particules sans masse qui font la lumière, interagissent avec la matière quand celle-ci est ionisée. Donc quand la matière est neutre, hein, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, il ne se passe rien. Les photons, à part nous dorer la pilule, ne font rien du tout. Mais dès que la matière est ionisée, ces photons prennent des caractéristiques un peu spéciales et commencent à rebondir contre les électrons, les protons, rebondissent, et sont en quelque sorte piégés. Et il se trouve que le tout début de l'histoire de l'univers, en fait, c'est l'histoire d'un milieu de gaz, d'électrons et de protons ionisés dans lequel il y a des photons et dans lequel ces photons sont piégés. Mmh. Et ce n'est que lorsque l'univers atteint cet âge fatidique de environ 370 000 ans après le Big Bang que la densité, donc les photons se diluent finalement quelque part au niveau de la matière et qu'ils peuvent se déplacer librement.
Se libérer.
Et donc c'est cette libération, on appelle ça un découplage, ils étaient couplés en quelque sorte avec les électrons et les protons, et ce découplage, c'est ce qui marque les premières photographies de l'univers, le fond diffus cosmologique.
Si on essaie de se représenter sous forme de schéma cette histoire de l'univers, au fond c'est un peu comme un dé à coudre renversé.
Oui, ou une trompette, nous on appelle ça la trompette cosmique. D'ailleurs je suis très heureux d'avoir entendu François Bouchet et Nabila Aghanim, qui sont des collègues très très proches, expliquer ça brillamment. On parle de trompette cosmique parce qu'en fait, si on part du début, donc du Big Bang, qu'on met à gauche par exemple, et puis on voit l'univers d'aujourd'hui qui est à droite, l'univers s'étend, donc on peut tracer une sorte de ligne un peu courbée vers l'extérieur, qui a une forme de trompette, parce que l'univers est en expansion et en expansion accélérée. Et effectivement, ce fond cosmologique qui a été... Donc c'est de la lumière, tout simplement, comme l'expliquait Nabila, qui a jailli de l'univers à peu près 370 000 ans après le Big Bang. Cette lumière était présente bien avant, mais elle a pu jaillir et être libérée qu'à ce moment-là. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'en regardant la lumière, en fait, on a une information sur la matière au tout début de l'univers, et la matière vibrait un peu comme à la surface d'une casserole dans laquelle vous faites bouillir de l'eau. C'est pas exactement le même phénomène, mais ça y ressemble. En fait, l'univers était en vibration, il faisait comme des bulles, des petites bulles partout, et comme nous n'y étions pas, le seul moyen de l'observer, c'est avec la lumière qui était couplée avec la matière à cette époque-là. Et puis donc le temps passe, l'univers est transparent à la lumière depuis à peu près 13,8 milliards d'années, et puis on essaie de voir et de comprendre comment la matière se condense sous l'effet de la gravité pour former des galaxies, des amas de galaxies, et puis dans les galaxies former des étoiles. Les premières étoiles sont toujours un mystère pour nous, on ne sait vraiment pas ce que c'est, mais on est certain qu'il y en a eu, et puis des générations d'étoiles, ensuite des planètes, et puis la vie, en tout cas ici on peut en témoigner, ailleurs peut-être, probablement, mais c'est toute cette séquence que l'on arrive à rendre intelligible, mais qu'on ne comprend pas encore complètement dans certaines phases importantes et dans les détails.
Donc avec ce fond cosmologique, on parle d'un univers relativement jeune, hein, on est à 370 000 ans.
Ah oui, 370 000 ans, c'est vraiment, c'est une fraction de pourcent de son âge, donc c'est vraiment les l'enfance, la prime enfance de l'univers. Et observer ce rayonnement fossile nous permet d'avoir une sorte de carte d'identité complète du début de l'univers. Parce qu'en fait, on voit les vibrations de l'univers au tout début, un peu comme donc à la surface de l'eau qui bout, ou peut-être de manière plus précise, comme à la surface d'une étoile aujourd'hui. Aujourd'hui, une étoile vibre, vous ne savez peut-être pas, mais le soleil vibre, et on ne peut pas voir le centre du soleil. Bah, c'était un peu pareil pour le Big Bang, on ne peut pas voir les périodes reculées, donc on peut dire l'intérieur d'une étoile, par analogie, mais comme le soleil vibre, on arrive à retracer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur grâce aux vibrations. C'est un peu ce qui se passe aussi avec les tremblements de terre, on arrive à comprendre l'intérieur de la planète Terre grâce aux vibrations causées par les tremblements de terre ou, de manière moins heureuse, les explosions nucléaires. Et ben c'est pareil pour l'univers, le tout début de l'univers, on observe ces vibrations et grâce à ces vibrations, on fait comme de la géophysique, hein, on fait de la sismologie du début de l'univers, on arrive à comprendre ce qui se passait au tout début et on arrive à avoir des choses ultra précises sur sa composition. Et c'est là qu'on voit qu'il y a plein de matière noire, hein, en tout cas selon le modèle qu'on a aujourd'hui, de l'énergie sombre, on ne sait pas trop ce que c'est, de la matière traditionnelle, heureusement, parce qu'on la voit aujourd'hui autour de nous, et puis on arrive à voir son âge ultra précisément à une fraction de pourcent près. Moi, quand j'étais étudiant il y a de nombreuses années, en master à l'époque, enfin DE à l'époque, master aujourd'hui, mes professeurs qui étaient chercheurs me disaient: on connaît pas l'âge de l'univers à mieux qu'un facteur de près, on savait pas si c'était 10 ou 20 milliards d'années. Et moi aujourd'hui je dis à mes étudiants que je verrai tout à l'heure d'ailleurs en amphi, je leur dis bah aujourd'hui on sait que c'est 13,79 milliards d'années à 0,3% près. Donc en quelques années on arrive à faire des sauts prodigieux, voilà, dans la connaissance.
Les progrès ont été absolument fulgurants. Alors vous évoquiez à l'instant la matière noire et l'énergie sombre, ce sont vraiment les deux énigmes qui intéressent beaucoup les cosmologistes actuellement. Écoutez ce reportage d'Euronews, c'est Julien Légourge, spécialiste de cosmologie théorique, qui s'exprime.
On sait maintenant qu'environ 68% de l'univers est constitué d'énergie sombre, une composante mystérieuse qui est responsable d'une expansion de l'univers de plus en plus rapide. Ensuite, on a mesuré l'abondance de la matière sombre dans l'univers autour de 27% de son énergie totale. 27% est constitué de matière sombre qui est responsable notamment des mouvements des étoiles au sein des galaxies. Et finalement, environ 5% est constitué de matière ordinaire.
Plus extraordinaire encore, la proportion d'énergie sombre ne cesse d'augmenter.
Il est intéressant de constater qu'il y a de plus en plus d'énergie sombre. Pourquoi ? Parce que notre univers est en expansion. De ce fait, il y a de plus en plus d'énergie sombre dans l'univers. S'agissant de la matière ordinaire et de la matière noire, elles ne sont pas en expansion, elles se diluent. Donc la proportion d'énergie sombre comparée à la matière noire et à la matière ordinaire est en constante augmentation. Plus l'univers augmente, plus il gagne en volume. Il y a donc plus d'espace disponible pour l'énergie sombre.
Hervé Nolle, comment on définit cette matière noire et cette énergie sombre et qu'est-ce qu'elles nous apprennent ?
Elles nous apprennent beaucoup de choses. C'est un peu difficile à définir. Déjà, en termes de vocabulaire, on utilise le terme anglais « dark matter » et « dark energy ». Donc, en français, on dit parfois « matière noire », « matière sombre ».« Matière invisible » serait peut-être le plus approprié. Mais voilà, moi, j'ai pris le parti de dire « matière noire ». Et puis « énergie sombre », on peut dire « énergie noire », mais c'est peut-être moins habile. Ce sont des composantes de l'univers dont on a besoin pour comprendre l'évolution, l'expansion de l'univers. Alors comment on fait ? On met des équations qui ont des paramètres libres et on se dit bah, comment ça peut marcher. Et puis quand on ajuste ça avec les données, on se rend compte qu'il faut de l'énergie sombre et de la matière noire. Alors je vais vous donner une analogie. On a tous de l'air autour de nous qu'on respire. En revanche, cet air, personne ne le voit parce que nos yeux ne sont pas assez fins pour voir les molécules d'azote, d'oxygène, etc. Par contre, on peut le sentir, il suffit de bouger la main ou de souffler avec ses joues, on sait qu'il y a de l'air autour de nous. Et même si on ne voit pas les particules individuelles, on peut donner une description globale, une température, une pression, une énergie. Bon, enfin, en gros, on va s'intéresser juste à la température et à la pression. Et depuis le XVIIIe siècle, on sait mettre en équation un gaz, parfait ou pas, en termes d'équation, qui lie densité densité et pression, pour faire simple, ou température, si vous préférez. Et ben, pour l'énergie sombre et la matière noire, on fait pareil. On met en équation ce qu'on ne connaît pas, Et puis, on arrive quand même à donner des paramètres, on arrive quand même à dire que bah, la matière noire compose voilà, les fameux 27% dont parlait Julien, et puis pareil pour l'énergie sombre. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question, mais je vous explique comment on fait, parce que ça paraît mystérieux pour les gens de parler de ce qu'on ne connaît pas. Alors, c'est comme l'air, hein, on ne le voit pas, mais on peut le mettre en équation et donner des propriétés globales. Alors, la matière noire, c'est le plus simple, c'est une matière qu'on ne voit pas, mais qui fonctionne par gravitation. Donc, ça attire, et puis ça forme des galaxies et des amas de galaxies. L'énergie sombre, c'est un petit peu plus chiouk, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus compliqué. C'est que c'est un fluide qui n'est pas matériel, mais qui explique pourquoi et comment surtout l'univers est en expansion, non pas expansion tranquille, mais expansion accélérée. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le taux d'expansion est rapide. Et dans les équations, ça sort tout seul. C'est les fameuses équations de Friedmann dont parlait l'abbé Lemaître tout à l'heure et que je présente aux étudiants. Il y a plusieurs termes. Il y a un terme qui est lié à la lumière, parce que la lumière est une source d'énergie très importante dans l'univers. Il y a un terme qui est dû à la matière, alors matière traditionnelle autour de nous, mais matière noire. Il se trouve qu'il y a à peu près 10 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Et puis il y a un terme d'énergie sombre, et ce terme il est constant. Alors comme tout le reste se dilue, et lui il est constant, bah, on a l'impression qu'il augmente. Moi je dirais pas ce qu'ont dit mes collègues là anglo-saxons, il augmente en proportion, mais il est constant dans l'univers. Donc je sais pas si ça éclaire votre lanterne, mais on a des idées relativement précises de comment ça fonctionne, des équations, on le confronte aux observations. En revanche, on sait pas du tout ce que c'est, même si on connaît son comportement. Et bah là, l'idée, c'est d'essayer avec des nouvelles expériences de comprendre ce que c'est et d'avoir quelques idées précises. Mais on est un peu dans le flou, là, je vous l'avoue.
Alors, c'est précisément la mission que va se donner le prochain programme Euclide. Hein, c'est vraiment de traquer cette énergie sombre et cette matière noire. C'est prévu pour la décennie 2020. On va en parler juste après Temple's Certainty sur RFI. Certainty sur RFI. Hervé Dolle, la prochaine mission chargée de démasquer ce que vous appelez les agents sombres, c'est Euclide, la mission spatiale majeure des années 2020 pour la cosmologie. Écoutez la voix de Michel Berthet, responsable instrument au CEA à Saclay.
La mission Euclide est une mission de l'Agence spatiale européenne qui est dédiée à l'étude et la caractérisation de l'énergie noire et de la matière noire. Elle sera lancée à la fin de l'année 2020 par une fusée Soyouz depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Le satellite Euclide sera placé au premier point de Lagrange du système Terre-Soleil, c'est-à-dire qu'il accompagnera la Terre dans son mouvement autour du Soleil pendant 6 ans et permettra ainsi de cartographier l'ensemble de l'univers et de regarder l'image des galaxies et leur distance afin de caractériser cette énergie noire et cette matière noire. La charge utile de cette mission Euclide est constituée de 2 instruments. Le premier est un imageur visible, c'est en fait un grand appareil photo qui va acquérir de manière extrêmement précise la forme de plusieurs milliards de galaxies réparties dans l'univers. Et cet instrument est simplement appelé l'imageur visible que l'on raccourcit en VIS, V-I-S. Le deuxième instrument est un spectrophotomètre infrarouge qui va mesurer les spectres d'un certain nombre de galaxies et il travaillera dans la lumière proche infrarouge qui est la plus efficace pour faire ces mesures de spectroscopie.
Hervé Dolbe, par rapport à Planck, avec Euclide, on est dans une différence de nature ou simplement de degré? Qu'est-ce qui va changer?
C'est complètement différent en termes de ce qu'on va observer. Planck observait l'univers ultra froid, hein, quelques centièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, enfin au-dessus de 3 Kelvin. Et donc on utilisait les ondes radio millimétriques, très très froides, très très longues. Avec Euclide, on va utiliser la lumière visible et proche infrarouge, beaucoup plus traditionnel, donc on aura des images aussi belles, voire plus belles que Hubble aujourd'hui. Donc ça sera plus facile pour communiquer, certainement. Mais donc on utilise une autre partie du spectre électromagnétique, c'est-à-dire un autre type de couleur. Et ce qu'a dit Michel, qui est un très bon copain aussi, je suis très heureux de l'entendre à cette émission de Paris-Saclay, c'est que la caméra VIS sera la plus grande caméra jamais lancée dans l'espace. Il y a 600 millions de pixels, ça va juste être extraordinaire. Donc on va faire des images de milliards de galaxies. Et ces images de galaxies vont nous permettre de reconstruire la présence de matière noire. Ça, c'est le premier but scientifique. Et puis, alors, le spectro-imageur aussi infrarouge, qui est en partie construit à Marseille, d'ailleurs, sur responsabilité française. La France a une très, très grande responsabilité dans Euclide, comme pour Planck. Donc, il y a une analogie entre les deux. Les images infrarouges vont nous aider également. Et la deuxième chose, c'est qu'on va étudier sur tout le ciel l'agrégation des galaxies. Alors, c'est-à-dire que l'agrégation des galaxies, c'est que les galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'univers, elles sont réparties en fonction de leur masse, de leur histoire, etc. Et avec des outils statistiques super puissants, qu'on appelle fonctions de corrélation, d'ordre supérieur, etc., on va réussir à voir comment les galaxies se sont agglutinées, et on va faire ça par époque cosmique, par tranche de redshift ou par tranche d'âge
redshift
de l'univers. Oui, redshift, j'ai sorti
pas de jargon.
Un mot, pardon. Voilà. C'est en gros l'âge de l'univers. Enfin, c'est l'époque dans l'univers. Et grâce à ça, on va reconstruire l'influence de l'énergie sombre. Donc, Euclide ne pourra pas nous expliquer ce que c'est que l'énergie sombre, mais il nous donnera des mesures tellement précises qu'on saura même de tuer des modèles d'énergie sombre. Parce que les scientifiques sont très, très créatifs. Hein. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a des centaines de modèles qui apparaissent sur le marché. Mais avec Euclide, on pourra un peu faire le tri, comme on l'a fait pour Planck, pour d'autres types de modèles, d'origine de l'univers. Et donc, on aura une vision plus complète. Mais Euclide seul ne pourra pas nous permettre d'expliquer ce que c'est que l'énergie sombre. Mais ça va permettre de faire une avancée majeure.
Vous vous définissez vous-même comme un tueur de modèles.
Comme un tueur, voilà ce que je dis dans livre, mon job, c'est tueur de modèles, y compris les miens, parce que c'est ça qui est intéressant dans la démarche scientifique, c'est qu'on a beau avoir des idées et adorer des modèles ou des théories, à un moment, le juge de paix, ce sont les observations. Alors moi, je suis plutôt observateur, même si je fais des modèles. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des nouvelles observations de plus en plus précises. Et ces observations, on ne les fait pas pour le plaisir, même si on aime ça et on adore ça, et ça fait des belles images et des beaux communiqués de presse. Mais ces données ont pour but de répondre à une question scientifique et de dire bah, tel modèle marche et tel modèle ne marche plus. En science, on ne peut pas prouver un modèle, hein, par contre, on peut le tuer, on peut le mettre en défaut. Et la science évolue de la manière suivante. Voilà, on a des observations qui tuent les modèles et on a des observations qui confortent certains autres modèles.
Est-ce qu'on est aujourd'hui à un tournant de l'histoire de la cosmologie? Est-ce qu'on est au bord d'un saut, d'une révolution?
Probablement, parce que il n'est de secret pour personne que ces histoires de matière noire et d'énergie sombre peuvent paraître artificielles, en tout cas très énigmatiques. Et on peut se demander si la matière noire et l'énergie sombre, qui ne sont donc pas expliquées et dont on ignore l'essentiel de la nature, finalement ne cachent pas une incompréhension majeure sur l'univers physique qui nous entoure. Et donc peut-être que d'ici quelques années, peut-être une ou deux décennies, on sera amené à complètement repenser la physique et la cosmologie avec des ingrédients qu'on ignore aujourd'hui. A contrario, on arrive à des degrés de précision dans nos descriptions que finalement on est peut-être à l'orée également d'une autre évolution qui est en fait la confirmation de ce que l'on pressent, mais qu'on ne peut pas encore prouver à ce jour. Donc ça reste très ouvert, mais c'est particulièrement excitant.
Parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu avec les détections des ondes gravitationnelles, la relativité générale, les prédictions d'Einstein fonctionnent et sont absolument confirmées chaque jour par les observations. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va en sortir si on se projette comme
ça ? On peut imaginer. L'histoire des sciences nous ont montré qu'effectivement, quand on reste dans un carcan un peu théorique ou d'une sorte d'idéologie scientifique, même si elle évolue, on aboutit parfois à des impasses. Alors, on se demande si on est dans une impasse aujourd'hui ou pas. C'est trop tôt encore pour le dire, mais effectivement la relativité générale est un très bon exemple parce qu'elle a révolutionné l'époque dans les années 1915, 1920, 1930 et 100 ans plus tard, certaines de ses prédictions sont brillamment observées et interprétées. Et donc, est-ce qu'il faut sortir de la réalité générale ? Il y a des théories qui essaient de sortir, hein, mais qui peinent beaucoup encore à ce jour. Donc, pour l'instant, c'est un peu notre théorie fétiche qui n'a jamais été mise en défaut. Et on verra, l'avenir nous le dira. Et en tout cas, on y travaillera pour la pousser dans ses retranchements les plus lointains.
Bref, tout reste à découvrir et il faut rester curieux, comme le disait Pierre Léna au début de cette émission. Merci beaucoup Hervé Dol.
Merci.
Votre livre Le côté obscur de l'univers est édité chez Dunod. Je renvoie également à votre site internet et à votre chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup de très belles images. Merci à Caroline Filliette pour la préparation de cette émission et à Anthony Bellard pour la réalisation. Lundi, vous retrouvez Caroline Lachowski et je vous dis à jeudi prochain. À très bientôt.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.